Tous. Une proposition indécente. Gérald Darmanin annule à l'instant une rencontre prévue avec son homologue britannique. Pour résoudre la crise à Calais, Boris Johnson propose de renvoyer en France les migrants qui auront réussi leur traversée. Ils sont les négriers de notre époque. Les passeurs responsables des naufrages dans la Manche sont constitués en réseau, comme pour le trafic de drogue. Reportage édifiant à suivre. Le chiffre du jour, 1 250 000, c'est le nombre de rendez-vous de vaccination pris dans la seule journée d'hier sur Doctolib. Nous nous interrogerons aussi sur la vaccination des 5-11 ans qui fait l'objet de beaucoup de réticences dans notre pays et vous y reviendrez avec votre invité à 8h20, Jérôme.
Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, invité du grand entretien de la matinale. Question sur le nouveau protocole à l'école, plus de fermeture de classe, mais des tests en grand nombre. Comment vont-ils se mettre en place? À quel rythme? Faut-il vacciner les moins de 12 ans? Le gouvernement l'envisage. Auditeur de France Inter, vous nous appelez dès maintenant 01 45 24 7000. Le standard est ouvert.
Le paradoxe Éric Zemmour. Plus sa candidature se précise, plus le polémiste doit compter ses soutiens. Trois ports bloqués aujourd'hui par les pêcheurs, ils attendent toujours leur licence pour exercer dans les eaux britanniques. Enfin, Joséphine Baker qui entrera au Panthéon mardi. Côté style, elle était la Beyoncé du XXe siècle.
France Inter.
Aujourd'hui encore, ils seront des dizaines à prendre la mer pour traverser la Manche au péril de leur vie. Gagner l'Angleterre, but ultime d'un voyage commencé souvent au Moyen-Orient. 25 000 migrants ont réussi à passer depuis le début de l'année. 27 sont noyés mercredi dans la Manche. Alors comment éviter de nouveaux drames? Il faut s'en prendre au réseau de passeurs, disent les autorités. Reportage dans le Calaisis sur ces réseaux qui pratiquent le trafic d'êtres humains comme le trafic de drogue. Faustine Calmet.
Dans ce campement, Ahmad survit en attendant de gagner l'Angleterre et connaît déjà les passeurs.
Certains sont français, d'autres anglais. Je ne sais pas trop. Ce sont eux qui nous emmènent sur la plage. Les passeurs sont en dehors du camp, mais ils ont des gens ici à l'intérieur.
Et pour la traversée, il faut compter 2500 euros jusqu'à 5000 pour un passager sur un bon bateau pas trop chargé.
Dans les passeurs, vous avez les petites mains, puis vous avez les lieutenants. Tous ces gens-là sont en France, sur la côte d'Opale, entre Dunkerque et Boulogne.
Franck Dersin est le vice-président de la région Hauts-de-France, en charge des ports.
Et puis vous avez les bosses, et les bosses sont à Londres. Ce sont les nouveaux négriers, avec des bateaux qui arrivent maintenant d'Allemagne, de Belgique, par conteneur au port du Havre. Et tout est organisé, c'est vraiment un business. C'est exactement le même fonctionnement que les parrains de la drogue, exactement.
Un business qu'il faut frapper du contrôle fiscal en Angleterre, défend Franck Dersin. Mais cela ne réglera pas tout, répondent les associations, pour qui c'est le verrouillage de la frontière qui a créé les passeurs, rendant les traversées quasi impossibles sans faire appel à eux.
La France organise ce dimanche à Calais une réunion à l'échelle européenne pour coordonner la lutte contre ces réseaux. Boris Johnson, lui, a une solution radicale. Le Premier ministre britannique veut renvoyer vers la France les migrants qui auraient traversé la Manche, car depuis 2003, c'est bien la France qui gère la frontière entre nos deux pays, Marie-Pierre Véraud.
Emmanuel Macron l'a reconnu, la France est de fait gardienne de la frontière britannique. Les accords du Touquet l'ont déplacée sur les côtes françaises. C'est à la France d'empêcher les traversées illégales. Elle reçoit pour cela des financements de Londres depuis près de 20 ans. Une tâche quasiment impossible, tant on ne peut verrouiller une côte ni fermer la mer. Une situation intenable aussi, car les migrants qui se retrouvent coincés de ce côté-ci de la Manche ne souhaitent pas rester dans notre pays, qui d'ailleurs n'en veut guère, mais doit pourtant les empêcher de le quitter. Des accords enfin qui placent la France dans un rôle politique délicat, puisqu'elle devient le bras policier de la politique migratoire britannique, pour ne pas dire l'otage des choix faits à Londres en la matière. Et voilà que Boris Johnson souhaite à présent formaliser encore davantage cette dépendance par un traité bilatéral qui lui permettrait de renvoyer en France les migrants indésirables. Une réponse peut-être à ceux qui, ici, souhaitent renégocier ces accords du Touquet afin d'inciter Londres à mener une vraie politique d'asile et à rouvrir des voies de migration légale, tout l'inverse du discours tenu à Downing Street.
Et Gérald Darmanin, en guise de protestation, annule donc la rencontre avec son homologue britannique prévue dimanche.
France Inter, 8h05, 1 250 000 rendez-vous pris sur Doctolib depuis hier pour la troisième dose. Il est urgent de ne pas attendre.
Le sprint est lancé, il faudra vacciner 19 millions de Français de plus de 18 ans d'ici au 15 janvier, faute de quoi notre passe sanitaire sera désactivé. Mais faudra-t-il en venir à terme à vacciner les plus petits, les 5-11 ans? Bonjour, Véronique Julien.
Bonjour.
L'Agence européenne du médicament a donné son feu vert au vaccin Pfizer. Ce ne sera pas avant 2022, a dit hier soir le ministre de la Santé Olivier Véran, car le sujet est assez délicat.
Oui, d'ailleurs, le ministre de la Santé a annoncé hier qu'il allait saisir non seulement la Haute Autorité de Santé, mais aussi le comité consultatif d'éthique sur la question, car c'est de fait une question éthique. On le sait, les enfants ont peu de risques de développer une forme grave. Les vacciner, ce serait surtout pour limiter les transmissions et donc en tirer un bénéfice collectif plus qu'individuel. À partir de là, est-ce qu'on prend le risque de les vacciner? L'Agence européenne du médicament dit oui. Pour le professeur Robert Cohen, qui est pédiatre, la question est sensible. Il est prudent de ne pas se précipiter.
Il est important d'attendre parce que les effets indésirables sont spécifiques de l'âge. On n'a pas assez de données et pour proposer un vaccin pour un effet collectif, il faut qu'on ait un niveau de tolérance qui soit excellent.
Certains soutiennent pourtant cette vaccination et il ne faudrait pas tarder.
En fait, devant l'ampleur rapide de cette cinquième vague, certains estiment en effet que tous les leviers sont bons à prendre. On a vu qu'avec le variant Delta, les enfants qu'on disait moins transmetteurs sont devenus plus contagieux. Si on ne les vaccine pas, ils risquent de ramener le virus à la maison, d'infecter papa-maman et d'entretenir la contamination. On a du recul sur le vaccin, pourquoi attendre, estime par exemple le professeur Jean-Michel Molina, il est infectiologue.
Je pense que globalement, il faut banaliser cette vaccination. Et les enfants, ils sont aussi victimes de cette épidémie. Il y a eu quand même quelques enfants, malheureusement, qui sont décédés. Ne pas être infectés va leur permettre de rester à l'école, de suivre leurs cours, de ne pas être isolés. Je trouve qu'il y a beaucoup plus d'arguments pour le faire que pour ne pas le faire.
Avant toute décision, la France veut attendre les résultats de tolérance réalisés sur des milliers d'enfants vaccinés aux États-Unis. On les attend pour fin décembre. A priori, ne France vaccin. S'il est autorisé en France que les parents volontaires, ce sera facultatif, a précisé hier Jean-Michel Blanquer.
Et en attendant, le nouveau protocole sanitaire dans les écoles prévoit, en cas d'élève positif, le dépistage de toute la classe. Et seuls ceux qui seront négatifs pourront revenir. Il n'y aura plus de fermeture de classe systématique. Et on remet le masque, on se lave les mains avec du gel hydroalcoolique et on fait gaffe au pass sanitaire. Mais vous allez l'entendre, au marché de Noël de Strasbourg qui vient d'ouvrir, les gestes barrières risquent de tourner au casse-tête. Valentin Dunat.
En effet, boire un vin chaud ou déguster un bretzel ne sera pas possible devant les stands. Il y aura des zones dédiées où il faudra présenter son pass sanitaire. Sauf que dans les faits, ça ne sera pas simple à faire appliquer, comme l'explique Nathalie.
Alors, je vends surtout des petits gâteaux de Noël.
Si moi, je vous achète un Kuglof, par exemple, je ne peux pas le consommer devant chez vous.
Non, je crois qu'il faut aller un peu plus loin.
Dans la zone de restauration.
De restauration, oui. Oui, c'est un peu difficile, ça, c'est sûr. Quoi, parce qu'en général, ils veulent goûter les petits gâteaux. Et puis, il faudra faire la police, ouais, je pense.
Alors pour l'instant, le pass sanitaire n'est donc obligatoire que dans les espaces dédiés à la restauration. Guillaume Lipsig, adjoint à la maire de Strasbourg, explique pourquoi.
Il ne faut pas oublier que c'est un centre-ville, que c'est un cœur de ville, qu'il y a un quotidien, qu'il y a des écoles, qu'il y a des commerces, et que du coup, on ne souhaite pas enclaver l'espace public dans une logique de pass sanitaire obligatoire, ce qui empêcherait aux gens de circuler, d'aller au travail, de rendre visite à leur famille, et ainsi de suite.
Le but, c'est bien d'éviter les longues files d'attente pour accéder au centre-ville, comme ce fut le cas pour des raisons de sécurité il y a 2 ans après l'attentat de 2018. Cette année, les contrôles se feront de manière aléatoire.
Reportage Valentin Dunat. Il n'y a pas encore de quoi gâcher les fêtes, mais un nouveau variant du Covid a été détecté en Afrique du Sud, potentiellement très contagieux et aux mutations multiples. L'Organisation mondiale de la santé y consacre une réunion aujourd'hui. Face à cette menace, le Royaume-Uni interdit l'entrée aux voyageurs en provenance de ce pays et de 5 autres pays limitrophes. La bourse de Tokyo, elle, a même perdu 3% en séance cette nuit. En Martinique, où les barrages se multiplient en ce moment, 4 journalistes ont été visés par des coups de feu dans un quartier de Fort-de-France. Alors qu'ils couvraient les violences urbaines de la nuit, ils ont été pris pour cible dans une rue déserte par 2 hommes à moto. Le couvre-feu a pourtant été étendu de 19h à 5h du matin. Emmanuel Macron au Vatican ce matin, il évoquera sans doute avec le pape François le rapport Sauvé sur les abus sexuels dans l'Église. Et à ce propos, au moment où l'Église doit verser des indemnités aux victimes, une enquête de la cellule investigation de Radio France révèle que le diocèse de Paris possède 700 millions d'euros de patrimoine immobilier. Il est propriétaire d'un grand nombre d'immeubles via des sociétés civiles immobilières, notamment avenue Georges V, près des Champs-Élysées. Et lors de sa visite à Rome ce matin, Emmanuel Macron va aussi signer un traité de coopération renforcé avec l'Italie au palais présidentiel du Quirinal, Bruce de Galzin.
Avec les Italiens, il n'est pas toujours facile de se comprendre. Le député Piero Fassino préside la commission des affaires étrangères. Il y voit une question de fierté.
La France est un grand pays qui a l'orgueil de sa histoire. C'est normal. Aussi, nous sommes un grand pays qui a une histoire très riche, donc. Chacun, il est orgueilleux. Je pense qu'il n'a pas de méfiance réciproque.
Le traité va au contraire renforcer la confiance avec la création d'organes réguliers de consultation. Un conseil de la jeunesse, un service civique franco-italien, un forum ministériel économique. France et Italie vont travailler sur la question migratoire avec une meilleure coopération à la frontière entre les deux polices. Sur la transition environnementale, mais aussi numérique. La coopération sera culturelle et spatiale également. Mais au centre de tout, il y aura l'Europe. Piero Fassino.
Une relation privilégiée avec la France, pour nous, c'est essentiel. Évidemment, il faut discuter, travailler ensemble l'Allemagne pour le rôle qu'il joue toujours en Europe. La relation avec la France est une relation stratégique et nous voulons influencer la politique européenne et pas seulement européenne ensemble.
La politique étrangère, en effet, avec un engagement commun en Méditerranée et en Afrique, en Libye et au Sahel notamment. Rome, Bruce de Galzin, France Inter.
Éric Zemmour à Marseille aujourd'hui et demain, une semaine après Marine Le Pen. Le polémiste est sur le point d'annoncer sa candidature. Son premier meeting est même prévu au Zénith de Paris le 5 décembre. Mais son étoile semble pâlir et ses soutiens se font plus hésitants, Élodie Forêt.
C'était l'un des premiers à soutenir le polémiste. Le multimillionnaire Charles Gave, proche des milieux identitaires, couvrait encore récemment Éric Zemmour d'éloges.
C'est pas une bulle et oui, ça va continuer à monter.
Mais dimanche soir, coup de théâtre, Charles Gave, qui a prêté 300 000 euros en septembre aux amis d'Éric Zemmour, se retire de l'aventure en cause le manque de clarté du montage financier de la campagne. Autre désillusion, Philippe de Villiers, invité le 5 décembre pour le premier meeting au Zénith, ne viendra pas pour ne pas entacher la réputation du Puy du Fou. La lepénisation de Zemmour commence à peser, témoigne un cadre d'un parti conservateur. Beaucoup de gens craignent de se griller en le soutenant. Des contrariétés que relativise l'équipe Zemmour. On résiste plutôt bien face à la campagne monumentale de diabolisation, soupire Denis Sieslik, responsable des parrainages. Au RN, au contraire, on parie sur un essoufflement durable du polémiste. Jean-Philippe Tanguy, directeur adjoint de la campagne.
Passé l'effet médiatique, la surprise, les Français se rendent compte finalement naturellement que les propositions sérieuses et surtout qu'on peut appliquer pour résoudre les problèmes, c'est ce que propose Marine.
Des cadres du RN qui espèrent donc aujourd'hui quitter la zone de turbulence, sortir du duel Le Pen-Zemmour pour réinstaurer celui face à Emmanuel Macron.
Élodie Forêt, ils ont l'impression qu'on noie le poisson, ils n'aiment pas ça.
Oui, les pêcheurs qui attendent toujours 150 licences de la part de l'Angleterre s'impatientent et changent de tactique. Ils vont bloquer symboliquement trois ports aujourd'hui. Déjà ce matin à Saint-Malo, en ce moment, un ferry en provenance de Jersey ne peut gagner le port. Saint-Malo où Mathilde Dehimy a rencontré Philippe Orveillon, le vice-président du comité des pêches d'Ille-et-Vilaine.
Ce matin, à cause du temps, le ferry a été décalé, mais c'est pas grave. Le port de Saint-Malo, c'est pas un port qui ne reçoit que des ferries. Donc, on a ce matin l'arrivée d'un bateau en provenance de Jersey qui amène des produits de la mer, des produits de la pêche et des produits de conchyliculture. Donc, on va symboliquement le retarder un petit peu dans sa livraison. Là, on est arrivé à un état de limite de la patience, quoi. On a attendu, on a reporté des dates, on a obtenu au goutte à goutte quelques licences supplémentaires et puis ça n'avance toujours pas, on n'a pas de vision claire sur l'avenir. Donc du coup, là, les gars se disaient, bon, il faut peut-être qu'on tape un peu du poing sur la table pour montrer qu'on existe, quoi. On va pas se laisser noyer comme ça sans réagir. On peut pas s'engager sur l'avenir, on peut pas faire d'investissement, on peut pas racheter du matériel, on peut pas embaucher des gens quand on sait pas si demain on sera toujours là ou si on sera éjecté de la zone.
Reportage Mathilde Dehimy, chanteuse, danseuse, résistante, féministe et militante antiraciste. Joséphine Baker, décédée en 1975, entre au Panthéon mardi. Sa dépouille sera transférée dans la nécropole. Elle sera la sixième femme à y reposer, la première femme noire. Sa vie riche de combats a inspiré de nombreux artistes, notamment de la communauté noire. La danseuse métisse Raphaël Delaunay en a même fait un ballet en 2013, intitulé sobrement « Chez Joséphine ». Pour la chorégraphe formée à l'Opéra de Paris, Marion Ferrer, Joséphine Baker est un véritable modèle artistique et plus encore.
Je voudrais être blanche, Parler de Joséphine Baker et Raphaël Delaunay retrouve ses réflexes. Même au milieu d'un café parisien, les gestes, les pas de danse sont immédiats.
Ça reste inscrit dans mon corps parce que j'ai tellement travaillé sur ces danses qu'elles sont devenues un peu comme une deuxième colonne vertébrale.
Des pas inspirés des danses africaines, à la fois fragmentées et chaloupées, très modernes pour les années 30 et encore très présents aujourd'hui dans le milieu artistique.
Ce corps très fragmenté, donc qui travaille l'isolation, c'est-à-dire juste une épaule et pas tout le reste du corps, c'est quelque chose qu'on retrouve en hip-hop. Des passages au sol, donc là on est encore dans hip-hop, mais acrobatique qui peut faire penser aux circassiens. C'est aussi burlesque, c'est simiesque, puisque ça tend à reproduire les gestes des animaux.
Pour l'ancienne danseuse de l'Opéra de Paris, Joséphine Baker est trop peu connue, son histoire pas assez enseignée, trop souvent réduite à la fameuse ceinture de banane.
Joséphine, on lui demandait de jouer la sauvage, et c'est comme si elle avait joué avec ces stéréotypes-là en les renvoyant à l'envoyeur.
Est-ce qu'il y en a aujourd'hui des Joséphine Baker ?
Son pendant, ça serait un peu Beyoncé. En termes de puissance, j'entends.
Vous n'aviez pas imaginé ça, Jérôme.
Mais en fait, il est parfaitement pertinent, ce parallèle.
Bon, enfin, il s'appelle Diego et il est né hier en Argentine, jour anniversaire de la mort du dieu du foot Maradona. Pas très original a priori, mais il faut savoir que ses deux sœurs se prénomment Mara et Donna.
D'accord.
Et à ce niveau-là, on est bien dans le culte, celui de la personnalité.
Donc Maradona et Diego dans cette famille argentine. Maradona qui a une église à son nom avec des centaines, des milliers de fidèles. Donc évidemment, c'est un culte. Christelle Rebière pour ce journal. La météo à suivre.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour hommes. Toutes naturelles. Cachemire, fil d'Écosse, soie ou coton. Et maintenant en lin. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Marie-Pierre Planchon, c'est du gris ce matin.
Et oui, à part le pourtour méditerranéen, on est cerné, mais la Corse et la Côte d'Azur sont toujours sous un régime d'averses orageuses. On a de nouvelles pluies aussi arrivées par la Manche, accompagnées d'un fort vent de nord-ouest qui arrose déjà les régions de la Bretagne à la Normandie en remontant la Côte d'Opale. On a encore aussi les résidus de la dépression du sud-ouest au nord-est avec de la neige sur les Pyrénées, le Massif central et des 300 mètres sur le Jura et les Préalpes. Et ce matin, vous verrez aussi quelques flocons voltigés sur les Ardennes. D'ailleurs, c'est très nuageux, donc avec des gelées. Moins 5 à Neuilly-l'Évêque en Haute-Marne, moins 2 au Puy-en-Velay, 2 à Lille, 3 à Paris et Montpellier. Vous avez 4 à Cognac et Biarritz et 13 au Cap Pertusato.
Et cette perturbation traverse le pays cet après-midi.
Oui, les pluies et le vent vont gagner les Pays de la Loire, le centre, la région parisienne aux Ardennes avec des flocons jusqu'en Lorraine et à surveiller la nuit prochaine à cause de la neige qui va tomber certainement jusqu'en plaine entre le Massif central et le nord-est. Ailleurs, le temps restera frais cet après-midi, très nuageux avec des éclaircies quand même à noter sur le sud-ouest et il va neiger toujours sur les reliefs et près de la Méditerranée, le Mistral et la Tramontane souffleront fort, tandis que des averses vont persister sur l'ouest de la Corse. Et en journée, le mercure va plafonner à 1 degré à Villars-de-Lans, 2 à Langres, 3 à Lyon, 4 à Dole et Metz, 6 à Lille, 7 à Paris. Comptez 10 à Nantes et à Bordeaux, 11 à Perpignan et Marseille et 15 à Calvi.
Merci Marie-Pierre.